sous les engagements, les mêmes parages. Et tous les ans, je trouve du changement de dessus mon passage.
Que je vous...
quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses, et puis voyons si je me souviens. Voyons dans ce coin de Beauce, il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait main? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, Mangerin, on ne sait quoi ces gars-là. Ils mangerin de la merde. Le chemin, c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? On groussit leurs arpents goulus d'un peu de glèbe toute neuve, et le pauvre chemin en est devenu mince comme une couleuvre. Et moi qu'avec lisse sous les cieux pour poser guibole, le chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à sœur n'est pas plus grand que ma main. Par où donc on se met du blé sur le terrain qui retire à ma route, et si je le en demande un bout de pain, il m'envoie faire foutre. Et c'est peut-être ben pour ça que je vois, à mesure que ce blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à sœur n'est pas au mont bio, petit chemin gris et blanc. Sur le dos qui que je passe, je veux plus qu'on serre ainsi les flancs. Car moi je veux de l'espace, où ce qu'est mes allumettes à son. Au fond de ma panthière, ah, je ferai ben reculer vos moissons. Allez, mange terre. Il y avait dans le temps un bio grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à sœur les pas, plus grand que ma main, pourrait bien les.
Allez, vous écoutez Radio Libertaire sur 89,4 MHz, c'est l'heure de l'émission Les Mangeux de Terre, alors avec un petit loupé en tout cas, le disque et la version de Marc Robin des Mangeux de Terre, poème de Gaston Coutet, était eh bien rayé. Du coup, nous avons entendu la version originale, puisque composée par lui, en tout cas sur le plan musical, la version de Gérard Pierron pour le générique de cette émission, une émission d'écologie sociale, comme tous les premiers lundis du mois à 18h. Et nous allons commencer un tour d'horizon de l'actualité du mois écoulé. Avec bien pot pourri de pour commencer de nouvelles diverses et variées. Alors pot pourri, le terme est bien choisi puisque je souhaitais attaquer avec un communiqué d'eau et rivières de Bretagne qui nous rappelle que dans le Finistère, des défenseurs de l'environnement bien sont menacés et qui nous dit face au sabotage, nous ne lâchons rien. En effet, la tension monte d'un cran à Landinvez, dont on a souvent parlé. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais voilà. Puisque Fabrice Hamon, qui milite pour faire reconnaître les pollutions d'origine agricole, s'est fait déboulonner une roue de voiture. Plusieurs associations et collectifs, dont Rivière de Bretagne, apportent tout son soutien. Face à cette intimidation, nous ne lâchons rien. Et effectivement, Fabrice Hamon n'en est pas revenu. Puisque c'était le 4 mai vers 18h, alors qu'il se rendait au cinéma avec sa femme, son fils et son ami, il a entendu un bruit bizarre, puisque la roue vibrait et un boulon lui est tombé dans les mains. Sur les 5 boulons, les 4 ont été desserrés. Je n'ai pas d'autre preuve que la photo que j'ai prise et le témoignage du garagiste, mais ça ressemble trop à ce qui s'est déjà passé. C'est forcément du sabotage, affirme-t-il, encore abasourdi. Depuis un an, ce riverain du Foul analyse la qualité de l'eau de la rivière. Il a même créé une association, Beautiful. En juin dernier, il révélait un taux d'Escherichia coli 77 fois supérieur à la valeur qui entraîne la fermeture des plages, 232 fois supérieur en août. Plus incisif sur son compte Instagram depuis le premier comité de pilotage dédié à la qualité des eaux de baignade, Fabrice Hamon pense que c'est ce qui a déclenché ce possible acte de sabotage. Ce que je dis agace, Landinvez est une poubelle à ciel ouvert. Les diverses associations, dont Association et Promotion de la Côte des Légendes, Avenir et Environnement Pays d'Iroise, Eau et Rivière de Bretagne, réunis au sein du collectif Stoppons l'extension de porcherie de la porcherie à Velvor, ainsi que France Nature Environnement Bretagne et Bretagne Vivante, soutiennent ce riverain lanceur d'alerte. Nous condamnons cet acte de sabotage lâche, réagit Christophe Levisage, administrateur d'Eau et Rivière de Bretagne et membre du collectif. Il s'agit d'une intimidation sournoise pour nous faire taire, mais nous ne lâcherons pas notre combat pour la nature et la qualité de vie. Dans quel monde vivons-nous ? Un citoyen qui finance personnellement des analyses d'eau pour essayer de faire avancer la connaissance des pollutions qui gangrènent nos cours d'eau se fait saboter sa voiture, réagit pour sa part Laurent Lebert, administrateur d'Eau et Rivières et président de l'APPCL. C'est un acte lâche d'une très grande gravité. Fabrice Hamon devait donc déposer plainte en ce début mai, et de son côté le collectif organise un carnaval des animaux d'Iroise qui aura lieu le 11 juin à la salle Omnisport de Landinvez. Voilà. Mais écoutez, une note d'ambiance un peu détestable par rapport à toutes ces personnes qui se mobilisent pour contrer les effets néfastes de l'agriculture productiviste sur l'environnement. Alors, puis après, je vous ai dit, on faisait un pot pourri, donc pour introduire l'émission, avec un article de Fabrice Nicolino du 24 mai qui revient sur un sondage. Et qui nous dit qu'en règle très générale, pour lui, c'est de la merde, le sondage. Et celui dont il parle porte sur la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, l'Espagne, l'Italie et notre chère vieille fripouille, la France. À chaque fois, la société YouGov britannique a interrogé 1 million de citoyens de chaque pays autour d'un enjeu certes décisif. Que sont-ils prêts à faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? La base de la pyramide est, comme il se doit, solide. Près de 80% des Français interrogés sont préoccupés par la crise climatique et seulement 16% des sondés ne le sont pas. L'inquiétude est là et c'est bien le moins. C'est ensuite que les biais s'accumulent, rendant la lecture du sondage de plus en plus confuse. Question : accepteriez-vous de passer à la voiture électrique ? Le sondeur, dans sa petite tête conforme, doit penser que choisir une voiture électrique est un geste fort. Et en effet, c'est impressionnant. Le cycle de vie de cette « révolution » entre guillemets émettra sans doute autant de gaz à effet de serre que la bagnole thermique, ou plus, et nécessitera des milliers, des dizaines de milliers d'esclaves tout là-bas, à la recherche de terres rares, anthane, cerium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium. Ces terres rares donc qui sont nécessaires à la bagnole électrique. Et là, 23% seulement des Français sont d'accord pour le grand changement. Je ne dis évidemment pas qu'ils récusent la bagnole électrique pour les mêmes raisons que moi, je constate que la question est con, ou que la question est conne. Je fais une petite remarque là-dessus. Sur la voiture électrique, on pourrait se laisser berner par le peu d'émissions d'un tel véhicule en roulant, hein, en oubliant évidemment toute la chaîne qui conduit à produire ce véhicule, et en particulier les batteries, et celle qui aussi conduit à son élimination. Et surtout considérer justement que dans la plupart des scénarios dits écologistes, ceux qui sont compatibles avec le capitalisme, eh bien ce sont les énergies renouvelables et la technologie qui sont mises en avant, évidemment, pour pouvoir continuer le business sans se poser de questions, condamné à la reproduction du capital et à la rentabilité. Ces solutions-là, quand bien même il y aurait une énergie renouvelable abondante, ce qui, si on enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects, pourrait éventuellement être le cas avec l'électricité, de toute façon, nous serions rattrapés par toutes les matériaux qu'induit une énergie abondante. Hein, de toute façon, cette énergie abondante, on voit que par l'effet rebond, il n'y a pas de frein, elle peut être utilisée et du coup elle sert à quelque chose, elle sert à déplacer des objets par exemple, déplacer des véhicules, et évidemment c'est ce qu'on voit avec la gabegie des trottinettes électriques, hein, des déplacements qu'on peut facilement faire à pied ou à vélo sans l'assistance d'un moteur, mais dont on nous fait croire que c'est vachement moderne, et puis pour inciter les gens il faut leur mettre une assistance, sinon ils pourront pas se déplacer par eux-mêmes, ils pourront pas faire usage de leurs muscles. Et bien voilà, donc on est bien dans ce sujet, à savoir tout le système médiatique, en tout cas celui qui est détenu par les grands intérêts capitalistes, cela focalise vers les solutions miracles en oubliant tout ce qui va derrière et évidemment ne parle pas de sobriété au sens du mot décroissance, hein, c'est-à-dire eh bien, tout simplement le fait de optimiser les usages et surtout limiter les usages dans les contraintes environnementales et les contraintes et les limites planétaires. Voilà. Comme vous le voyez, cet article me fait réagir. Alors, continuons avec toujours Fabrice Nicolino qui cite une autre question posée par cet article, ce sondage. Seriez-vous d'accord pour payer un supplément de prix pour les vols en avion de manière à compenser l'impact sur l'environnement ? Le pourcentage de réponses favorables tombe à 19%. Le commentateur avisé triomphe. N'est-ce pas la preuve d'une grande ambivalence, pour ne pas dire égoïsme ? Mais on oublie alors l'essentiel, nous dit Fabrice Nicolino. 11% seulement des Français prennent régulièrement l'avion. Le sondé lambda a peut-être ses raisons de ne pas se sentir concerné ou de se demander s'il est avisé de lui poser la question à lui. Nouvelle question du sondage. Seriez-vous prêt à seulement marcher, faire du vélo ou utiliser les transports en commun plutôt que de conduire une voiture ? Le résultat est étonnant car 35% sont d'accord. Ils ne doivent pas faire partie des millions de ruraux ou de périurbains qui, compte tenu de choix faits par d'autres, il y a des décennies, des choix d'aménagement, je précise, eh bien, compte tenu de ces choix antérieurs, beaucoup, énormément de ruraux, de périurbains n'ont d'autre choix que la bagnole. La question la plus stupide, peut-être, est celle-ci. Donc, une autre question du sondage. Seriez-vous d'accord pour totalement supprimer la viande et les produits laitiers de votre alimentation ? Qui demande cela ? Personne ou presque, nous dit Fabrice Nicolino. Sauf le sondeur. Comme de juste, seuls 15% sont d'accord. À bien y réfléchir, d'autres questions sont aussi très, très imbéciles, telles que « Seriez-vous d'accord pour interdire la production et la vente de voitures à essence et diesel ?» Quand ? On ne sait pas. Demain ? Quand la bagnole électrique, et on finit par se demander si le sondeur n'a pas des actions dans une compagnie, aura pris le dessus ? Malgré tout, 11% des Français soutiennent fermement et 15% supplémentaires pourraient soutenir l'interdiction donc des voitures à essence et des diesel. Enfin, dernière question, seriez-vous d'accord pour qu'on investisse dans la production en France pour limiter le coût environnemental des importations ? Et n'est-ce pas une définition convenable de l'idée de produire et consommer localement, nous dit Fabrice Nicolino. Et là, près de 80% des sondés sont pour, loin de moi, nous dit Fabrice Nicolino, l'idée de croire au petit Jésus en culotte de velours. Beaucoup des nôtres n'ont aucune envie de réduire ou de transformer en profondeur leur façon de vivre et de ne plus consommer comme des gorées affamées, c'est vrai. Mais regardons les chiffres d'un autre œil. Près de 80% des Français sont inquiets, selon le sondage, et des millions sont d'accord pour de vrais changements, jusqu'à près de 80% aussi, pour une production tournée vers la protection de la vie. C'est énorme. Ce qui manque au programme, chacun le sait, c'est une volonté politique capable de galvaniser. On pourrait alors discuter vraiment, échanger des arguments, convaincre son voisin, mais notre gouvernement de lobbyistes patentés de l'industrie ne le fera jamais. Voilà la conclusion de ce petit billet, et on lit aussi un commentaire nous disant que finalement les sondés sont beaucoup moins cons que les sondeurs. Ça peut être aussi une façon de voir les choses. Et bref, et alors toujours dans ce tour d'horizon un peu éclectique, avec la revue Reporter sur les Jeux 2024, qui nous rappelle que 2 ans après les premières annonces, le ton est beaucoup moins triomphal, puisque au mois de mai dernier, les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ils sont revenus sur leur engagement d'avril 2021 de réaliser un événement à contribution positive pour le climat, c'est-à-dire qui capte plus de gaz à effet de serre qu'il n'en émet. Nous ne trouvons que ce n'est pas raisonnable scientifiquement et compte tenu de l'urgence, a justifié Benjamin Lévesque, responsable climat et biodiversité du comité d'organisation, qu'il a déclaré à France Info. L'objectif de neutralité carbone n'a pas non plus été retenu. Désormais, les organisateurs prévoient un bilan carbone de 1,6 million de tonnes d'équivalent CO2, soit deux fois moins d'émissions que les Jeux de Londres en 2012 et Rio en 2016, qui ont chacun rejeté dans l'atmosphère 3,5 millions de tonnes équivalent CO2, et moins que les Jeux de Tokyo de 2020, qui étaient autour de 2 millions de tonnes. Pourtant, à Tokyo, les Jeux s'étaient déroulés en pleine pandémie de Covid et sans spectateurs. Si le détail du bilan prévisionnel pour les JO 2024 n'a pas été rendu public, l'organisation a livré une évaluation grossière de la répartition des émissions. Environ un tiers des déplacements des spectateurs, des officiels et athlètes, un tiers des constructions et un tiers des opérations, restauration, hébergement, logistique. Pour réduire au maximum l'impact environnemental, elle a adopté plusieurs mesures, parmi lesquelles 95% d'infrastructures existantes ou temporaires, des constructions moins carbonées ou encore une offre de restauration à 60% végétarienne. Mais ce bilan carbone, nettement moins ambitieux qu'il y a deux ans, laisse sceptique Martin Müller, qui est professeur à l'Université de Lausanne et spécialiste de la durabilité sociale, environnementale et économique des JO. Il y a un manque de transparence autour du 1,6 million de tonnes équivalent CO2. Je n'arrive pas à comprendre en tant que chercheur sur quelle base cela a été calculé, a-t-il regretté sur France Info. Il critique aussi le recours à la compensation en engagement problématique à l'efficacité douteuse. Alors, la compensation, c'est évidemment l'idée selon laquelle, si on replante une forêt ailleurs, on peut s'autoriser à mener des activités polluantes. C'est un principe complètement aberrant, en tout cas, qui permet de continuer un business comme d'habitude, et puis surtout avec des solutions de type plantation accélérée en monoculture d'arbres de type eucalyptus, ce genre de choses, qui sont un danger même pour la biodiversité à l'endroit où ces plantations sont réalisées. En fait, on trouve là des arguments marketing sur cette idée de compensation. Mais je reprends la lecture de l'article. Donc, selon Martin Müller, qui est professeur à l'Université de Lausanne, d'autres mesures auraient été plus efficaces pour des jeux plus écologiques, réduire la taille avec moins de spectateurs et d'athlètes, s'en tenir à deux ou trois villes d'accueil et confier l'évaluation de la durabilité de l'événement à un organisme indépendant. Effectivement, c'est bien le moins. Autre éraflure sur le vernis des JO 2024, nous dit l'article de Reporter. Le sort réservé aux étudiants locataires des quelques 3000 logements Crous, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, franciliens qui seront réquisitionnés pour l'accueil des volontaires et des partenaires des Jeux, forces de sécurité, soignants, chauffeurs, pour permettre l'organisation de Jeux Olympiques destinés aux plus riches. Des étudiants vont donc être expulsés de chez eux pendant l'été 2024 et se retrouver sans logement. C'est indigné sur Twitter le syndicat L'Union étudiante. Devant les critiques, le ministère des Sports a assuré que tous les étudiants délogés retrouveront leur logement en septembre et que ceux qui le souhaitent seront relogés ailleurs durant l'été. Voilà, et donc on pourrait aussi prolonger le débat sur les annonces récentes avec d'un coup le gouvernement se met à dire que face à la concentration de la demande de logements et donc de personnes hébergées, notamment en structure d'hébergement, donc structure très précaire, on se met à se dire finalement qu'on va les envoyer dans d'autres régions. Et tout ça est bien utile parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces questions d'hébergement, il y a des places hôtelières qui ont été bien utiles puisque financées notamment par l'État dans l'après-Covid, où le tourisme finalement était au plus bas, et on a donc trouvé une activité rentable en finançant ces places d'hébergement notamment à l'hôtel. Et là, maintenant qu'on est dans une phase de prestige international avec divers événements sportifs, eh bien, d'un coup, on essaie de faire place nette, en particulier de chasser tout simplement les pauvres des caméras et récupérer pour faire un max de pognon, bien tout ce qui peut être structure, qui peuvent être utilisées à vocation hôtelière. On a bien là les JO du fric et on a évidemment la solidarité qui est bien oubliée. Et bien du coup, puisqu'on parle infrastructure, toujours avec Reporter, hein, dans un article de Marie Astier du 24 mai, et bien elle revient aussi sur le chantier des futurs métros du Grand Paris Express, qui ne détruit pas que des terres agricoles, puisqu'il ôte aussi des vies. Après 5 décès d'ouvriers, la société du Grand Paris tente de convaincre que la sécurité est sa priorité. La sécurité n'est pas une variable d'ajustement. Devant un parterre de journalistes, Bernard Catelin, pardon, membre du directoire de la Société du Grand Paris, insiste. Donc c'est ses propres mots. 200 km de ligne, 868 gares, 140 chantiers en cours, le tout pour plus de 40 milliards d'euros selon une évaluation du Sénat. Le Grand Paris Express, futur métro automatique, est l'un des plus grands chantiers d'Europe. Pour tous les fleurons industriels nationaux qui le construisent, c'est une vitrine que l'on voudrait garder attrayante et impeccable. Et chaque accident fait tache, nous dit Reporter. Or, 5 ouvriers sont morts depuis le début des travaux, dont 2 en mars et en avril. La Société du Grand Paris reconnaît également moins d'une trentaine d'accidents graves, c'est-à-dire où des moyens médicaux ont dû intervenir sur place. Il faut donc convaincre que tout est fait pour éviter ces drames. En ce mercredi 15 mai, les journalistes sont choyés. Une visite de chantier a été organisée. Les hauts responsables jouent la sincérité dans les réponses aux questions. La décision de faire de la sécurité la priorité de l'année a été prise début 2023, donc avant les 2 accidents mortels de cette année. On entre dans une nouvelle étape du chantier avec plus d'entreprises de coactivité, c'est-à-dire plusieurs entreprises qui travaillent sur un même chantier, et donc des risques accrus, explique Bernard Catelin. La Société du Grand Paris estime déjà faire beaucoup. Elle impose une charte de sécurité incluse dans les contrats, plus contraignante que la loi. Il est arrivé que l'on demande le remplacement d'un conducteur de travaux parce que les conditions de travail sur son chantier n'étaient pas satisfaisantes, assure en guise d'exemple Bernard Catelin. La Société du Grand Paris assure également multiplier les contrôles de sécurité, tant par des audits externes que par des équipes internes. On constate que les résultats ne sont pas ceux que nous souhaitons, reconnaît Jean-François Montels, qui est président du directoire de la Société du Grand Paris. Sur le chantier de la future gare de la Courneuve, 6 routes, démonstration est faite aux journalistes des efforts déployés. Des rappels sur le port des équipements de protection individuelle, donc les fameux EPI, casques, gilets, lunettes, gants, chaussures de sécurité, sont visibles à chaque entrée du chantier. Alain Truffemus, directeur adjoint de la ligne 16, désigne les garde-corps dressés devant chaque trémie, c'est-à-dire des ouvertures dans le sol, les fers à béton protégés de plastique, le harnais du grutier qui a sauvé des vies. Le chantier est propre, tenu au cordeau, bien loin des images que Reporter avait pu consulter, prises par un ouvrier sans papier sur le chantier de la gare d'Orly. Il portait des charges sur un treillis de barres de métal sans protection. Pour faire encore mieux, un plan de renforcement de la sécurité des chantiers est en train d'être mis en place, annonce la Société du Grand Paris. La première mesure concerne les intérimaires, le taux d'accident chez eux est plus élevé, note Bernard Catelin. Une formation de 2 jours à la sécurité sera désormais obligatoire. On veut s'attaquer au système culturel du BTP, insiste Jean-François Montels, qui estime que le respect des règles de sécurité n'est pas un automatisme. À chaque accident, on constate qu'une règle n'a pas été respectée, regrette-t-il. La bonne volonté ne suffit pas, ce qu'il faut changer, c'est l'organisation du travail, conteste auprès de Reporters hors conférence de presse Ali Tolu, qui est représentant CGT des salariés chez Vinci Group et ouvrier sur un chantier de la ligne 18. Il arpente les chantiers du futur métro pour tenter d'améliorer les conditions de travail de ses collègues. Il dénonce les cascades de sous-traitants dont on connaît les conséquences dans le BTP. Plus on descend dans la chaîne, plus les coûts et les délais sont contraints, plus les conditions de travail se dégradent et plus le risque d'accident augmente. Alors la Société du Grand Paris se défend. S'il y a des sous-traitants, c'est entre autres parce qu'elle s'est engagée à verser au moins 20% des montants des marchés à des PME et TPE, donc petites et moyennes entreprises et très petites entreprises, ce qui multiplie les intervenants. Et juridiquement, c'est compliqué de limiter la sous-traitance, explique Bernard Catelin. Ali Tolu de la CGT, lui, pointe plutôt le choix des grands groupes qui externalisent de nombreuses tâches. Il soutient notamment que chez Vinci, en 2017, on nous a dit qu'on allait récupérer certains métiers en interne, les parpaings, la ferraille, etc. Mais il constate que rien n'a été fait depuis. Il conteste également les chiffres donnés par la Société du Grand Paris, qui estime que 25% des compagnons sur ces chantiers sont des intérimaires, 50% des titulaires et 25% des sous-traitants. Pour Alitolu, la proportion de précaires est bien plus importante. Déjà, les chiffres prennent en compte les administratifs. Or, il y a plus de titulaires chez les administratifs que chez les ouvriers, explique-t-il. Par ailleurs, les CDI de chantier et les CDD sont comptés parmi les titulaires, ajoute-t-il. Or, qui dit contrat précaire dit plus de difficultés pour les ouvriers à dire non à un ordre pouvant les mettre dans une situation dangereuse, avait raconté Reporter. Chaque décès sur un chantier repose aussi la question des délais. Nous ne mettons pas de pression. Les délais ont été revus après l'arrêt des chantiers à cause du Covid. Nous devons faire passer ce message aux entreprises, insiste Bernard Catelin. Aucun des accidents mortels n'a eu lieu sur un chantier où il y avait des conditions de pression sur les délais, appuie Bernard Masselin, responsable de la sécurité des chantiers du Grand Paris Express. Mais le délégué syndical CGT rappelle à Alitolu, rappelle qu'on travaille pourtant le samedi sur certains chantiers du Grand Paris, ce qui contribue à maintenir une cadence de travail élevée. Quand on travaille 60 heures par semaine dans un métier pénible, il y a une accumulation de fatigue, dit-il. Enfin, le syndicaliste aimerait être associé à l'enquête quand il y a des accidents. On est prévenu plusieurs jours après. Ils font l'analyse sans les syndicats, dénonce l'ouvrier. La Société du Grand Paris, elle, assure vouloir plus de contrôle des chantiers par les syndicats. Ils sont les bienvenus, assure M. Catelin. Alors, la prochaine fois qu'ils organisent un rendez-vous avec les journalistes, qu'ils m'invitent, lui répond le syndicaliste CGT Alitolu. Voilà, et bien tout ça, il faut aussi le redire, hein, c'est un secret de Polichinelle. Quand on entend ce responsable s'étonner ayant l'air de sous-entendre qu'il y a une forme de pratique habituelle de non-respect des consignes de sécurité, on voit bien qu'évidemment il feint d'ignorer que la précarité, celle qui fait les profits des grands groupes, hein, des grands majors de BTP, par justement la sous-traitance en cascade avec l'exploitation notamment de travailleurs sans papier, forcément soumis à beaucoup plus de pression et pouvant être beaucoup moins exigeants, méconnaissant leurs droits sur les chantiers. Tout ça, ce sont évidemment les profits des grands groupes et donc la question des équipements de sécurité. C'est à la fois une question de formation syndicale pour des travailleurs extrêmement précaires et aussi de consignes données sur les chantiers, hein, puisque on le sait bien, il y a effectivement des très grandes contraintes de délai, notamment par rapport à l'événement qui est un motif majeur finalement de pression sur tous ces chantiers. Voilà, un vrai secret de Polichinelle, mais derrière, encore une fois, l'organisation de jeux bien propre, eh bien on voit qu'il y a des dégâts humains et donc la solution c'est bien sûr de se rapprocher de toutes les organisations syndicales, notamment dans le secteur du bâtiment, et qui œuvrent bien pour la défense des droits et l'organisation surtout des travailleurs afin d'exercer les pressions économiques et le rapport de force de blocage de chantier sans lequel les choses ne pourront pas évoluer. Et puis enfin, pour finir ce tour d'horizon éclectique de ce démarrage d'émission, un article avec La Relève et la Peste, donc le site, un article du 1er juin qui nous rappelle que les Bretons ont gagné contre le projet de la plus grande usine au monde de pâtisserie surgelée. Et qui nous dit que cette victoire illustre l'intérêt et l'efficacité de mobiliser tous les leviers en même temps, les leviers citoyens, politiques, médiatiques et enfin juridiques. En effet, face à la résistance des Bretons, le fabricant de viennoiserie et pain surgelé Bridor a décidé d'annuler son projet d'usine géante à Liffré, en cause les nombreux recours en justice intentés par les opposants qui auraient fait perdre 10 ans au projet. Si l'usine avait vu le jour, elle aurait détruit 21 hectares, plus de 1000 arbres et haies bocagères et accaparé 200 000 m3 d'eau chaque année. Après l'annonce de la suspension du projet en novembre 2022 en raison d'une forte mobilisation de locaux qui était opposé, le groupe Le Duf a définitivement renoncé à ouvrir une troisième usine à Liffré, donc qui est à côté de Rennes. La raison, les travaux de construction ne pourraient vraisemblablement pas commencer avant 2026, amenant le démarrage du site au plus tôt en 2028 en raison des recours engagés devant la justice. Parmi les griefs des opposants au projet, le pillage des ressources en eau, l'artificialisation des sols, le non-respect des directives cadres européennes au niveau de l'air, des sols et de l'eau, qui leur a permis d'attaquer le projet en justice sur plusieurs volets. L'annonce vient donc couronner leurs efforts, mais la lutte continue, prévient l'association La Nature en Ville, qui est impliquée dans la bataille juridique. Le DUF renonce à s'accaparer les terres agricoles fertiles, mais les décisions administratives perdurent, et donc nous devons poursuivre les démarches en justice pour les faire annuler et créer une jurisprudence qui serviront de leçon aux barons locaux, mais aussi à d'autres luttes sur le sujet, explique-t-il dans un communiqué. Le maire d'hiver gauche de la commune, Guillaume Béguet, a de son côté fait part de sa volonté de toujours installer des entreprises sur les terrains pour créer des emplois locaux, mais cette fois-ci à la découpe pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Citation. Pour l'association Bretagne Vivante, cette victoire illustre l'intérêt et l'efficacité de mobiliser tous les leviers en même temps, citoyens et politiques, médiatiques et enfin juridiques. Ils continueront à porter les recours juridiques tant que Bridor n'aura pas demandé le retrait de l'autorisation environnementale. Quelques victoires en se saisissant des moyens du droit et en paraphrasant, je ne sais plus si c'est Pouget ou Pelloutier, que faire contre le patron, l'obliger à appliquer le droit. C'est vrai qu'on peut dire que ce sont des modes de lutte réformistes, mais dans un contexte où les droits ne s'usent que quand on ne s'en sert pas, pour paraphraser la citation du canard enchaîné, qui est les droits de la presse notamment, il y a effectivement beaucoup trop de droits qui existent, mais qui sur lesquels tout le monde recule, alors que voilà, si on œuvre dans le sens d'un progrès social, on doit justement partir des conquêtes, ne rien lâcher dessus et les étendre, bien sûr, c'est ça le sens, en tout cas, du progrès social. L'introduction a été longue, alors j'ai l'impression qu'on a décrit un certain nombre de phénomènes qui nous font penser peut-être à la folie des grandeurs. Eh bien, justement, la folie des grandeurs, c'est peut-être la chanson à passer. Pour s'accorder une pause et une respiration bien méritée, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Thank you.
Voilà, c'était le générique du film La Folie des Grandeurs. Et bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeurs de Terre. Et nous allons bien poursuivre avec, à propos de Folie des Grandeurs, en ouvrant la page nucléaire, du sujet du nucléaire, que certains voudraient nous vendre comme solution miracle et tout à fait dans la logique de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le fait que on rêve d'une énergie disponible à profusion et on oublie le fait que bien sûr tout cela, même si l'énergie, si on disposait d'une énergie abondante, eh bien nous consommerions de manière transière et bien au-delà des limites d'autres ressources, on le voit avec la voiture électrique et les batteries qui ne tombent pas du ciel hein, mais qui bien sont issues de l'exploitation minière de terres rares avec bien tout le volet social de l'exploitation et d'une forme de colonialisme, à savoir bien les territoires ou les pays réservent de matières premières pour les pays riches. Et évidemment avec l'aspect aussi environnemental extrêmement grave hein, sur le fait que peut-être en parallèle même à l'effet de serre, justement parce qu'il y a une focalisation sur l'effet de serre, mais la question est bien celle de l'épuisement des ressources aussi, et là on n'y met absolument pas fin, en tout cas le système capitaliste qui aime tellement parler de progrès technologique et d'énergie renouvelable, eh bien oublie tout à fait cet objectif totalement à l'antithèse de la croissance, puisque c'est la décroissance, et c'est donc la limitation des besoins, c'est-à-dire que eh bien on n'est pas comme le jeune enfant qui veut tous les jouets, non, il faut s'inscrire dans un environnement, dans des limites, et surtout dans un partage également, pour ne pas avoir une partie de la population qui surconsomme de manière effrénée, et une grande partie, en tout cas la plus grande partie mondiale, dans la misère. Voilà un petit peu le contexte. Donc le nucléaire, on fait aussi la transition avec le dernier article autour d'une victoire symbolique certes, mais voilà, il y a des petites victoires, il faut les citer. Comme nous le rappellent les associations, le réseau Sortir du Nucléaire et Sortir du Nucléaire Berry Giennois Puisaye, puisque le 3 mai 2023, à l'issue d'une longue bataille judiciaire, la cour d'appel d'Orléans a enfin reconnu EDF coupable d'une série d'irrégularités et de manquements à la sécurité constatés à la centrale de Belleville-sur-Loire. Les associations ont donc cité, elles se félicitent de cette condamnation pour cette affaire qui remonte à 2017. Des équipements importants pour la sûreté étaient dans un état alarmant. Le 13 septembre 2017, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, plaçait la centrale nucléaire de Belleville sous surveillance renforcée après une inspection menée en avril 2017. De nombreux équipements importants pour la sûreté ont été découverts dans un état de délabrement avancé. Leur usure était aggravée par un manque évident d'entretien et des réparations de l'ordre du rafistolage. De plus, cette inspection a fait apparaître des problèmes organisationnels, un manque dans la rigueur et la traçabilité des opérations de maintenance et trop souvent une sous-estimation de la gravité des dysfonctionnements. La situation n'était d'ailleurs pas nouvelle. En 2015, le réseau Sortir du Nucléaire avait déjà porté plainte pour une trentaine d'infractions à la réglementation environnementale et nucléaire à la centrale de Belleville-sur-Loire. La culpabilité d'EDF reconnue en justice malgré de nombreuses entraves, c'est ce dont on peut se féliciter, puisque c'est sur la base du rapport établi par l'ASN en 2017 que le réseau Sortir du Nucléaire et l'association locale Sortie du Nucléaire Berry Giennois Puisaye avaient adressé une plainte au procureur de Bourges le 20 octobre 2017. Malgré la gravité de ces nombreuses alertes, la justice a pris son temps pour reconnaître les fautes de l'exploitant. En effet, EDF et le parquet ont toujours estimé que les irrégularités constatées ne relevaient pas de la justice. Ainsi, notre plainte a d'abord été classée sans suite par le parquet de Bourges. Après une relaxe par le tribunal que nous avions saisi le 9 novembre 2018 et une décision d'appel qui déclarait l'action de nos associations irrecevable au motif que seule l'ASN aurait la possibilité de relever des infractions à l'encontre des exploitants nucléaires, Nous n'avons eu d'autre choix que de nous pourvoir en cassation. L'affaire a été examinée sur le fond le 30 janvier 2023, après une décision d'annulation de la Cour de cassation. Ces longueurs procédurales ne sont malheureusement pas exceptionnelles en droit du nucléaire, et le simple fait de défendre notre légitimité à assigner EDF en justice pour les fautes dont elle est responsable est un combat en soi. Le géant du nucléaire devra s'acquitter d'une amende, et dans son arrêt rendu le 3 mai, la Cour d'appel d'Orléans a reconnu que les manquements relevés par les associations étaient constitutifs de trois différentes conservations. Elle condamne EDF notamment pour un défaut de maintenance d'un élément important pour la protection, EIP, ce qui caractérise un manquement aux obligations réglementaires. Elle le condamne aussi pour la fuite significative de soude qui a été causée par le manque d'étanchéité d'un circuit d'aspersion dans l'enceinte, et condamné à verser trois amendes de 1 500 euros, soit au total 4 500 euros. En 2022, l'ASN considérait toujours que concernant la maintenance des installations, les performances de la centrale nucléaire restent à améliorer. La même année, de nouvelles erreurs ont en effet été commises sur le site de Belleville. Pour nous, donc, les associations, ces phénomènes continuent de questionner les compétences industrielles d'EDF et la rigueur d'exploitation du site. On ne rappellera jamais assez que la sûreté d'un site nucléaire impose une constance dans la rigueur. Après 6 années de feuilleton juridique, nos associations se félicitent d'avoir persévéré. La négligence systémique d'EDF a enfin été reconnue et condamnée. Tout vient à point à qui sait se défendre, concluent donc ces membres du réseau Sortir du nucléaire. Et puis peut-être un petit écho aussi avec le Canard enchaîné. Donc il y a deux articles dans le Canard enchaîné de cette semaine. La première, c'est alerte aux faux soudeurs atomiques, et l'article nous dit qui permet peut-être de mieux comprendre les problèmes de soudure des centrales nucléaires françaises. Le 18 avril, lors de son inspection du chantier de construction d'ITER, alors c'est la future centrale à fusion nucléaire et non pas à fission, hein, fusion nucléaire près de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a fait une découverte restée jusque-là cachée. La présence de 13 soudeurs qui disposaient de certificats de compétences falsifiés, les autorisant à travailler sur ce chantier nucléaire ultra sensible. C'est la direction d'ITER elle-même qui avait alerté l'ASN à propos de ces falsifications de qualifications au sein des sous-traitants qu'elle emploie. Tiens, on retrouve la remarque de ma part, la sous-traitance qu'on évoquait sur les chantiers du métro. Une enquête a été lancée donc le 4 mai pour préciser leur étendue et leur éventuel impact sur des équipements importants pour la sûreté. Selon l'ASN, le risque d'irrégularité est aggravé par le contexte actuel de très fortes tensions sur les métiers du soudage qui amène les donneurs d'ordre à aller chercher des professionnels au-delà de leurs partenaires. Pas au point d'embaucher n'importe qui quand même, interroge le Canard. D'autant que le boulot ne manque pas, EDF a lancé un plan de vérification d'ici à la fin de l'année de 320 soudures suspectes, dont 69 à inspecter en priorité dans ses 56 réacteurs. Sous réserve d'informations complémentaires révélées par l'enquête, l'ASN mentionne un unique précédent, la découverte en 2021 à La Hague de 3 soudeurs sans qualification nucléaire, qui ont été ensuite formés par Orano, ex-Areva, dans son école de soudure. Mieux vaut tard que jamais, conclut l'article du Canard. Et puis, dans l'actualité, donc il y a un projet de loi d'accélération du nucléaire, et là aussi un communiqué du réseau Sortir du nucléaire. Sur la fin de parcours législatif pour une loi hors sol, communiqué commun Sortir du nucléaire Greenpeace France. Alors que le projet de loi d'accélération du nucléaire est arrivé le 16 mai à l'Assemblée nationale pour un ultime vote des députés, le réseau Sortir du nucléaire et Greenpeace France dénoncent le passage en force du gouvernement sur un projet de relance du nucléaire hors sol face aux impératifs climatiques auxquels il prétend répondre. Ce texte n'est pas un texte de programmation énergétique, affirmait Agnès Pannier-Runacher au Sénat en janvier dernier. Or, c'est pourtant ce qui a été voté donc le 16 mai à l'Assemblée nationale. Dans sa version finale, la loi élimine tous les garde-fous qui permettent actuellement de limiter la production d'électricité nucléaire. Elle supprime le plafond de production d'électricité nucléaire à 63,2 gigawatts et l'objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique total. Elle prévoit également de retirer l'objectif de fermeture de 14 réacteurs nucléaires de la future programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, et de fixer un objectif de construction d'EPR 2 lors de la loi de programmation de l'énergie climat, sabotant au passage tout débat démocratique et court-circuitant l'agenda législatif initialement prévu. Le gouvernement met donc la charrue avant les bœufs et acte une relance à marche forcée sans avoir de scénario clair sur lequel baser la planification énergétique du pays, ni d'objectifs précis en termes de sobriété et d'efficacité énergétique. Un manquement majeur déploré par la CNDP, donc la Commission de débat public, dans ses conclusions au débat public sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Brandie au nom de l'urgence climatique, cette loi relève, au contraire de la procrastination climatique, c'est-à-dire le fait de remettre à plus tard. D'après le GIEC, il nous faut impérativement réduire de moitié nos émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030, une urgence à laquelle aucun nouveau réacteur ne peut répondre au vu des délais de fabrication de ceux-ci, qui actuellement sont entre 15 et 20 ans. L'échéance de la mise en service d'un premier réacteur nucléaire en 2036, répétée tel un mantra par le gouvernement, est déjà hors sujet. Quant aux enjeux climatiques, elle ne repose sur aucun fondement et ne cesse d'être contredite. Un rapport interne datant d'octobre 2021 table plutôt sur 2040. La décision de l'ASN datant du 27 avril dernier de proroger d'un an supplémentaire le délai d'instruction du dossier de demande de mise en service de l'EPR de Flamanville n'est qu'une illustration de plus de ce fiasco industriel. La filière nucléaire a déjà du mal à maintenir son parc actuel à flot et ne parvient pas à endiguer le phénomène de corrosion sous contrainte, voire à l'appréhender dans sa complexité. En attendant, c'est autant d'argent qui n'est pas investi dans le développement des énergies renouvelables, les économies d'énergie, et c'est autant de retard pris sur l'agenda climatique et la baisse concrète et rapide des émissions de gaz à effet de serre. Ça, je me permets de m'arrêter sur ce point parce que c'est un point fondamental. Effectivement, c'est bien là tout le problème, c'est-à-dire de s'entêter dans la production d'une énergie mortifère et surtout dans des délais. On parlait d'ITER, le projet aussi de fusion nucléaire, le projet très hypothétique, dans des délais de réponse, en tout cas qui sont pas du tout à la hauteur et à l'échelle des enjeux bien de limitation des gaz à effet de serre, et qui entretiennent aussi l'idée d'une énergie abondante, bon marché, qui de toute façon bien sera limitée par la limitation des ressources, bien notamment en métaux, mais pas seulement, des ressources non renouvelables, que mobilisent toutes ces énergies soi-disant abondantes. Fin de la parenthèse de ma part. Je reprends l'article. Ce gouvernement ne se cache plus de vouloir éliminer tout caillou qui pourrait aller contre sa décision unilatérale de relance du nucléaire. Le texte de loi final laisse la porte ouverte à une fusion ultérieure de l'IRSN et de l'ASN et met en danger la sûreté nucléaire. Cette loi est une opération de diversion pour imposer le nucléaire comme un incontournable, alors que la lenteur de construction des réacteurs nucléaires est le premier élément d'une longue liste qui disqualifie complètement cette énergie comme solution face à l'urgence climatique. Regardez ailleurs pendant que la maison brûle, c'est exactement ce que ce gouvernement est en train de faire, déclare Pauline Boyer, qui est chargée de campagne transition énergétique à Greenpeace France. Alors que la France est déjà exposée à une sécheresse pire que celle de l'année dernière, la relance du nucléaire pose clairement la question des conflits d'usage de l'eau en cours et à venir. La filière nécessite plus de 15 milliards de mètres cubes d'eau douce par an pour refroidir ses réacteurs. Une partie s'évapore, une grande majorité est rejetée dans les cours d'eau mais réchauffée et polluée, impactant ainsi la biodiversité. Le nucléaire n'est pas écologique et ne peut donc pas être considéré comme une énergie d'avenir, selon les propos de Mathilde Damcourt, chargée de campagne au réseau Sortir du nucléaire. Évidemment, des propos que nous ne pouvons que souscrire, auxquels nous ne pouvons que souscrire. Voilà, donc par rapport à ça, je souhaitais aussi vous faire part d'un communiqué de presse de la coordination antinucléaire, puisque le mouvement antinucléaire se regroupe pour contre-attaquer. Le mouvement antinucléaire s'organise pour contre-attaquer la relance du nucléaire militaire et civil et tous les projets qui en découlent. Une première assemblée a eu lieu ce samedi 3 juin 2023 pour coordonner de futures actions contre le nucléaire et son monde. Le nucléaire n'est ni bon pour la planète, ni pour son climat, ni pour la paix. dangereux et désastreux pour l'environnement, le climat et l'humanité. Le nucléaire est une industrie du passé et il n'a aucune solution pour ses propres déchets. Le pire est donc à venir si le gouvernement français parvient à lancer un nouveau programme nucléaire, car la survie du nucléaire, c'est aussi celle du consumérisme et de cette folle course en avant dont nous ne voulons pas. Au contraire, une écologie sociale et solidaire est à construire de toute urgence. Nous ne pouvons plus différer sa mise en œuvre. Les dirigeants industriels et politiques français tentent d'imposer des projets nucléaires par nature nuisibles, construction de nouveaux réacteurs, prolongation de vie des réacteurs actuels, enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure, nouvelle piscine à La Hague. C'est pourquoi les différentes composantes du mouvement antinucléaire français ont décidé de se regrouper face à cette urgence et d'unir leurs forces lors de futures actions qui seront organisées dans les mois à venir. Des rencontres auront lieu tout l'été et seront autant d'espaces où le mouvement antinucléaire continuera de se retrouver pour se préparer. Voilà, donc c'était un communiqué de la coordination antinucléaire. Il est absolument nécessaire de s'organiser pour réagir et créer ce rapport de force pour infléchir et changer la donne avec un nucléaire en baisse, en tout cas on va le voir dans la part de la production, on va le voir un petit peu plus loin. Alors, dans Reporter du 25 mai, un article revient sur l'année 2022 qui a été marquée par des aléas inédits sur les installations nucléaires jamais rencontrées jusqu'alors. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN Bernard Dorosuc, n'a pas mâché ses mots le 25 mai lors de la présentation de son rapport, enfin du rapport de l'ASN, sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2022, présentation devant les députés et sénateurs de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT. Ces événements peuvent être illustrés par le nombre et la durée des arrêts de réacteurs d'EDF sans précédent durant l'hiver 2022-2023 et par les fragilités persistantes dans les installations du cycle du combustible, a-t-il poursuivi. En 2022, la production d'électricité nucléaire s'est établie à 279 TWh, son plus bas niveau depuis 1988, du fait de multiples déboires. Arrêts liés aux problèmes de corrosion sous contrainte, retard dans le programme de maintenance, effet combiné de la canicule et de la sécheresse. Les représentants de l'ASN ont particulièrement insisté sur les conséquences de la sécheresse et de la canicule exceptionnelle de l'été 2022. Le gendarme du nucléaire, donc l'ASN, a dû permettre à EDF de déroger aux règles de rejet thermique dans les cours d'eau pour pouvoir continuer à exploiter ses centrales de Golfech, Bugey, Saint-Alban, Blayais et Tricastin. La gestion des conséquences de ce type d'épisode extrême, dont la fréquence pourrait augmenter dans les années à venir, nécessite une consolidation des connaissances scientifiques sur l'impact environnemental cumulé des rejets, ainsi qu'une réflexion sur les évolutions technologiques à intégrer, a estimé le président de l'ASN. Parmi les solutions évoquées, la construction dans les centrales de nouveaux réservoirs d'entreposage des effluents quand ces derniers ne peuvent être rejetés dans les cours d'eau pour cause d'étiage, ou encore la conception de PR2 pouvant être progressivement adaptée à de très fortes chaleurs, par exemple en laissant de l'espace pour des moyens de réfrigération supplémentaires dans des bâtiments réacteurs. En revanche, les représentants de l'ASN n'ont pas fait mention du souhait d'Emmanuel Macron de convertir les réacteurs à circuit ouvert en circuit fermé, un projet jugé peu réaliste par les acteurs de la filière. Enfin, l'ASN a alerté sur l'état préoccupant des installations du cycle du combustible, en particulier de l'usine de fabrication de combustible Mellox et de l'usine de retraitement de La Hague, et sur un besoin urgent de leur sécurisation industrielle. Autre sujet sur la table, la relance du nucléaire en Europe et la construction de 6 nouveaux EPR2 en France. La crise énergétique en Europe a conduit les pays à revoir parfois substantiellement leur politique énergétique et à lancer des projets nucléaires avec le souhait qu'ils avancent vite. Or, le nucléaire est un domaine du temps long, a rappelé le directeur général de l'ASN, Olivier Gupta. Il y a un risque que cette situation mette en tension les industriels et les autorités de contrôle au détriment de la qualité et de la réalisation de la, et de de la sûreté. Intéressant cette remarque, j'ai fait un petit commentaire, hein, puisque ben, on retrouve ce phénomène comme bien la date butoir des JO. Là, il y a une date butoir et bien on voit que bien pour qu'on atteigne l'objectif à une date dont on a vu qu'elle est déjà dépassée, hein, puisque une première livraison de centrale en 2036, c'est bien au-delà de 2030 qui est l'année de référence par rapport à la division par deux des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on voit que même du côté de l'autorité de sûreté nucléaire, on est inquiet justement de cette tension entre ces objectifs extrêmement forts et bien sûr ces injonctions, on va dire, à tenir les délais. Et on sait très bien que la sécurité va être en tout cas une variable d'ajustement. Je reprends l'article qui souligne aussi que l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs représente un défi pour l'ASN, notamment avec les petits réacteurs modulaires SMR, puisque l'ASN est habituée à dialoguer avec des gros industriels expérimentés. Le gendarme du nucléaire se retrouve à devoir contrôler, voire orienter des start-up que M. Dorosuk décrit comme des vendeurs qui ne sont pas avant tout des exploitants, qui sont ambitieux et qui veulent que ça aille très vite. Souvent, ils nous proposent des projets sans qu'il existe une usine de fabrication qui pourrait poser des questions de prolifération sans se préoccuper du cycle aval et des déchets, ni de la sécurité vis-à-vis des actes de malveillance, alors même qu'on ne sera pas dans le cas d'un site nucléaire entouré de barbelés, déplore le président de l'ASN, qui réclame donc des grands frères, entre guillemets, pour accompagner ces porteurs de projets. L'année 2023 s'annonce elle aussi chargée. En janvier, l'ASN a reçu le dossier colossal d'autorisation de création du centre d'enfouissement des déchets radioactifs CIGEO, donc à Bure. Celui du premier EPR2 de Penly, qui devrait arriver en juin. 12 équivalents temps plein devraient être mobilisés l'an prochain sur les nouveaux réacteurs, en brillant d'une équipe qui pourrait réunir jusqu'à 30 personnes dans les années à venir. Un casse-tête organisationnel, alors que les dossiers en cours peinent à être refermé et les chantiers menés à terme. Nous espérions redéployer les personnels affectés à l'EPR de Flamanville, mais nous devons attendre sa mise en service, assoupiré M. Gupta, voilà, du côté de l'autorité de sécurité nucléaire. Et puis pour terminer sur cette page qui aura été très longue, mais il était très important d'en parler, eh bien je reviens justement au canard enchaîné, avec cet excellent article de cette semaine, intitulé « La France accro à l'uranium étranger » et qui nous dit en sous-titre que nos centrales nucléaires ne pourraient pas tourner sans l'aide des Russes et des Américains. C'était l'un des principaux objectifs du voyage historique d'Emmanuel Macron en Mongolie. Le 21 mai, lors de son escale à Oulan-Bator, au retour du G7, le chef de l'État s'est employé à sécuriser le projet du groupe français Orano, ex-Areva, exploité sur place l'une des plus grandes mines d'uranium du monde. Sans uranium, pas de carburant atomique pour faire tourner nos 56 réacteurs nucléaires qui, en 2022, ont fourni 62,7% de notre électricité. Petit commentaire de ma part, hein, on était à une époque pas si lointaine, à 80%. On voit que bien, la chute est inexorable et de toute façon, elle continuera à l'être, comme ce mouvement mondial, la diminution de la part du nucléaire dans la production d'électricité est largement, très largement entamée donc, au niveau mondial. Alors, je reprends la lecture de l'article. Deuxième pays le plus nucléarisé de la planète, la France a besoin chaque année d'un peu plus de 1000 tonnes d'uranium enrichi. Or, il convient pour obtenir cet indispensable concentré de matière fissile d'extraire au préalable 8000 tonnes d'uranium naturel, 14% de la production mondiale, rien que ça. Sauf que la dernière mine sur le sol français a fermé en 2001. Un rapport rendu public le 31 mai passe au tamis cette dangereuse dépendance. Ce document de 36 pages, rédigé par le groupe d'experts indépendants Global Chance, rappelle en effet que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, deux charmantes démocraties restées sous influence russe, ont permis de combler entre 2005 et 2020 respectivement 20 et 16% des besoins français en uranium naturel. Merci Poutine. Depuis la guerre en Ukraine, ses importations font tâche et notre troisième fournisseur, le Niger, 18%, est lui fortement déstabilisé par une guérilla djihadiste, d'où la nécessité de regarder du côté de la Mongolie. Plus grave, EDF et Orano font venir de Russie un tiers de l'uranium brûlé chaque année dans l'Hexagone, et pour cause. Les Ruskov fabriquent à prix cassé 46% de l'uranium enrichi utilisé dans le monde. L'invasion de l'Ukraine n'ayant pas entraîné d'embargo sur l'uranium, le business franco-russe continue. Le rapport de Global Chance, enfin, pointe une troisième faiblesse de la souveraineté nucléaire française, celle de notre dépendance aux États-Unis pour les assemblages combustibles. 40% de ces tubes de zirconium remplis de pastilles d'uranium enrichi sont en effet produits par la firme américaine Westinghouse. Pour être vraiment indépendant, il n'y a plus que la bougie, conclut l'article. Voilà, on voit que cette question d'indépendance énergétique française, je pense que c'est le clou qui ferme le cercueil des illusions du nucléaire. Et voilà, comme on a largement évoqué ce sujet, eh bien on va s'accorder une pause musicale bien méritée. Et on se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89,4 MHz. Dans l'émission Les Mangeux de Terre. Voilà, c'était Push par The Cure sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre, où nous allons bien conclure les 20 minutes qui nous restent par quelques articles sur la problématique du plastique, avec notamment Zero Waste France, Zéro Déchet France en français, un article de Manon Richard du 1er juin qui revient sur le fait que la France accueille les négociations internationales visant à mettre fin à la pollution plastique. Eh bien, l'organisation donc Zero Waste France rappelle que le pays produit deux fois plus de déchets que la moyenne mondiale et en exporte encore une grande partie vers des pays moins riches et moins bien équipés pour gérer le flux de détritus. Selon la Banque mondiale, 2,2 milliards de tonnes de déchets ménagers ont été produites en 2020 dans le monde, soit 290 kg par habitant. Avec 580 kg d'ordures ménagères et assimilées par an, les Français donc rejettent donc deux fois plus de déchets que la moyenne mondiale et quatre fois plus que les habitants d'un pays à revenus faibles et intermédiaires, tel que le Ghana. De manière générale, les 9% de la population mondiale qui vivent dans les pays aux plus faibles revenus ne sont responsables que de 5% des déchets produits dans le monde. Des chiffres qui reflètent surtout les différences drastiques de mode de consommation entre pays riches et pays pauvres. À cet égard, les ordures ménagères ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La production de déchets a un impact néfaste sur l'environnement et les populations humaines dès la conception du produit. Alors, les objets que nous consommons ici en France sont en grande majorité produits à l'étranger. Résultat, alors que les émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire français sont en baisse, les émissions importées sont, elles, en augmentation continue et dépassent désormais les émissions nationales, d'après le Haut Conseil pour le Climat. Une grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre dans les pays à revenus faibles et intermédiaires sont ainsi imputables au mode de consommation des pays développés. Et ça, je me permets de faire un encart, hein, parce que vraiment c'est une idée qu'il faut, enfin, en tout cas c'est une notion qu'il faut vraiment ne cesser de répéter à tous ceux qui nous disent que les gros pollueurs ce sont la Chine et consorts. Non, il faut refaire les calculs en se disant qui est l'importateur des produits, qui consomme les produits finaux et qui en même temps veut que les mines ferment sur son territoire, que les industries polluantes dégagent de son territoire. Eh bien, ce sont bien les pays occidentaux. Voilà. L'article développe une notion de colonialisme des déchets. Alors, c'est une notion qui a été utilisée pour la première fois en 1989 et qui décrit le processus par lequel les pays riches tirent parti, exercent et renforcent leur domination sur les pays à revenus faibles et intermédiaires qui ont, dans la plupart des cas, été colonisés par le passé et qu'ils le font par le biais d'exportations de déchets toxiques et ou difficiles à recycler, tels que les emballages plastiques. Souvent mal équipés pour faire face à ces afflux d'ordures, les pays destinataires se retrouvent contraints de gérer les déchets dont ils ne sont pourtant pas responsables et qui affectent gravement leur population et leur environnement. Pays gros producteurs de déchets, donc la France délocalise non seulement leur production, mais aussi leur traitement à l'étranger. Par exemple, en 2021, elle exportait selon les Nations Unies près de plus de 340 000 tonnes de déchets plastiques, soit 150 000 tonnes de plus qu'elle n'en importe, principalement en provenance de pays limitrophes. Concernant les exportations, plus de 80% des ordures envoyées par la France à l'étranger le sont vers d'autres pays de l'Union européenne, du moins officiellement. En outre, la réglementation européenne limite les exportations de certains types de déchets comme les plastiques. En réalité, la France manque de visibilité sur le devenir des déchets qu'elle exporte et la lutte contre les trafics illicites reste très insuffisante. Dans ce contexte, les pays à plus faibles revenus, en proie à des logiques prédatrices, deviennent des déversoirs de choix pour nos ordures. Une enquête récente menée par la fondation Changing Markets a par exemple montré que la France déversait chaque année au Kenya plus de 250 000 vêtements usagés en fibre plastique. Ces textiles sont de si mauvaise qualité qu'ils finissent directement en décharge à ciel ouvert ou sont brûlés. Et cela ne concerne que les exportations directes, inscrites au registre des douanes. En effet, les associations qui ont mené l'enquête soulignent le manque de transparence des exportations européennes de vêtements usagés qui passent souvent par plusieurs pays. Mélangés et triés lors de ce transit, les vêtements deviennent alors intraçables. Un encadrement plus strict des exportations de déchets, comme l'a proposé le Parlement européen en janvier 2023, semble dès lors souhaitable. Pourtant, les fleurons français du secteur, à l'instar de Veolia, sont vent debout pour défendre cette pratique injuste sous prétexte que cela reviendrait à sacrifier le marché légitime du recyclage. Malheureusement, le maintien de ce marché se fait au détriment de la santé des populations locales, comme l'a démontré Human Rights Watch en Turquie, où Veolia opère en outre le plus gros site européen d'incinération des déchets, avec plus d'un million de tonnes d'ordures traitées par an. L'association a en effet constaté de graves violations des droits humains dans les usines de recyclage du plastique en Turquie. Le travail dans certains de ces sites de recyclage confine à l'exploitation. Certains employés ne sont pas majeurs, d'autres n'ont pas de papier, beaucoup travaillent sans équipement de protection et sans accès garanti aux soins en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. Conséquence de ces conditions de travail déplorables et de la trop grande proximité des usines et des habitations, les travailleurs et les riverains sont nombreux à déclarer toutes sortes de maux chroniques, problèmes respiratoires, forts maux de tête, maladies de peau. L'absence de contrôle adéquat mené par l'État turc est bien sûr en cause. Cependant, les pays européens qui exportent leurs déchets plastiques vers la Turquie portent ainsi une lourde responsabilité en ne réduisant pas le plastique jetable à sa source. En effet, depuis la fermeture des frontières chinoises aux importations de déchets et la limitation des exportations de déchets de l'Union européenne hors de l'OCDE, les emballages plastiques sont massivement exportés vers ce pays. Des déchets qu'il est souvent difficile, voire impossible de recycler, sont ainsi envoyés vers des pays dotés d'infrastructures moins adaptées et de réglementations moins strictes en matière de protection de l'environnement et de la santé qu'au sein de l'Union européenne. Et ce, alors que ces pays doivent aussi gérer leurs propres déchets. Une négligence qui coûte cher en vie humaine. Dans les pays en développement, une personne meurt toutes les 30 secondes de maladie causée par la mauvaise gestion des déchets, selon l'ONG Tearfund. Par ailleurs, d'après les Nations Unies, la seule pollution plastique cause 13 milliards de dollars par an de dommages environnementaux pour les écosystèmes marins. Une partie de ces coûts est endossée directement par les communautés côtières des pays du Sud qui subissent en parallèle des pertes de revenus issues de la pêche et du tourisme. Qu'il s'agisse des effets du changement climatique, de la perte de biodiversité ou encore des atteintes aux droits humains, les populations les plus vulnérables payent le prix du mode de vie occidental fondé sur le tout jetable. Face à ces injustices, les pays du Sud passent à l'action à travers de mesures parfois radicales. Alors que l'Union européenne et la France s'affichent comme pionnières en matière d'écologie, c'est le Bangladesh qui a été le premier pays au monde à interdire les sacs en plastique. En Afrique, 34 États sur 54 ont adopté des lois visant à réduire l'usage des sacs en plastique jetables. Parmi eux, la moitié les ont complètement interdits. Le Rwanda en particulier a dégainé dès 2008 tout un arsenal législatif jusqu'à interdire tous les plastiques à usage unique en 2019. En mai 2021, 136 organisations de la société civile ont appelé les gouvernements africains à mettre fin au colonialisme des déchets, notamment en empêchant le déversement de déchets plastiques dans la région et en demandant un plafonnement strict de la production mondiale de plastique neuf dans le cadre des négociations internationales pour mettre fin à cette pollution. Le colonialisme des déchets se joue aussi sur le plan symbolique avec des effets bien réels sur les politiques de prévention et de gestion des déchets. Ainsi, dans un rapport paru en 2015, 5 pays asiatiques, à savoir la Chine, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, ont été pointés du doigt par l'influente ONG états-unienne Ocean Conservancy comme étant les premiers responsables de la pollution des océans. Pendant des années, ce récit mensonger a permis de masquer la responsabilité des pays du Nord et des multinationales dans la production d'emballages plastiques, tout en incitant ces pays d'Asie à investir dans des solutions non durables de traitement des déchets. En 2022, les associations membres du réseau régional Gaïa Asie-Pacifique ont obtenu des premières actions réparatrices à travers la rétractation du rapport et la conclusion d'un accord qui priorise la réduction du plastique à la source et la responsabilisation des producteurs. Alors que la deuxième session des négociations internationales sur la pollution plastique s'est ouverte à Paris le 29 mai, comment la France peut-elle contribuer à réparer les injustices liées à cette catégorie de déchets ? Siège historique d'entreprises leaders dans les secteurs de l'extraction, de la transformation d'hydrocarbures, comme Total Energy, mais aussi du traitement des déchets, Veolia, elle a un rôle crucial à jouer, d'abord car elle est l'un des chefs de file dans la lutte contre la pollution plastique au niveau européen. Ensuite, en montrant l'exemple chez elle, en appliquant les dispositions réclamées par les citoyens, à l'instar de l'interdiction de la vente sous plastique des fruits et légumes ou de la consigne pour réemploi des emballages. Enfin, en rejetant les fausses solutions à contre-courant de l'objectif de sortie du plastique à usage unique pour 2040 qu'elle s'est pourtant fixé, comme la consigne pour le recyclage des bouteilles plastiques ou encore le recyclage chimique. Le traité international sur le plastique pourrait être, à l'instar du protocole de Kyoto, un des accords environnementaux les plus importants de l'histoire. La France doit saisir cette opportunité pour se montrer à la hauteur des enjeux et se positionner à l'avant-garde de la lutte contre la pollution plastique dans la réglementation, comme dans son application, nous dit Zero Waste France. Et puis, dans une considération un peu plus recentrée, on va dire, un nouvel article également, toujours Zero Waste France, donc l'association Zéro Déchet, qui revient sur la consigne pour recyclage, puisqu'une concertation est organisée jusque ce mois-ci par le ministère de la Transition écologique à propos de la mise en place d'un système national de consigne. Et donc l'association alerte sur les risques associés à une consigne pour recyclage et demande que soit privilégiée la consigne pour le réemploi du verre. Donc, lors du débat sur la loi AGEC, donc c'est la loi anti-gaspillage, économie circulaire, la décision sur la mise en place d'un système national de consigne pour recyclage et ou pour réemploi avait été renvoyée à une décision à prendre par le gouvernement en 2023. Pour ce faire, une concertation est organisée jusque ce mois-ci par le ministère de la Transition écologique à propos de la mise en place d'un système national de consigne. Zero Waste France demande depuis des années le retour de la consigne pour réemploi pour diminuer le nombre d'emballages à recycler, incinérer ou enfouir en fin de vie. Seulement, ainsi est-il possible de véritablement s'attaquer à la pollution plastique et à son impact sur la biodiversité, la santé et le changement climatique. Le principe de la consigne pour réemploi est simple. Prenons l'exemple d'une bouteille pour boisson. Vous achetez votre produit dans un contenant en verre avec quelques dizaines de centimes de plus, et quand vous la restituez, votre commerçant vous rend les quelques dizaines de centimes. C'est le système que nous connaissions jusqu'aux années 60, avant que les bouteilles en plastique n'envahissent les rayons des commerces. Le secteur de l'hôtellerie-restauration fonctionne encore en partie ainsi et ça marche très bien. Une autre idée est de nouveau sur la table après avoir été écartée par le Sénat lors de l'examen de la loi AGEC en 2019, la consigne pour recyclage. Cette consigne-là n'a rien à voir avec la consigne pour réemploi. Certes, pour les consommateurs, le geste est le même. Vous payez votre boisson en bouteille plastique quelques dizaines de centimes de plus, puis une fois consommée, vous la rapportez au supermarché et vous récupérez quelques dizaines de centimes. Mais ce qui diffère, c'est la suite. Vos bouteilles plastiques vides partent ensuite au recyclage, comme le sont actuellement celles que vous mettez dans le bac de tri jaune. Il s'agit donc de mettre en place un nouveau dispositif de collecte des emballages recyclables en parallèle au bac de tri jaune qui se viderait progressivement de ce type de contenant, mais continuerait de recevoir tous les autres, briques de lait, yaourt, etc. L'objectif de la consigne pour recyclage n'est donc pas d'éviter la production et la consommation d'emballages jetables, mais d'améliorer les taux de collecte et de tri pour un gain environnemental bien moindre que le réemploi. C'est pourquoi clairement la consigne pour recyclage n'est pas la solution prioritaire, car face à l'ampleur de la pollution plastique, la priorité doit être de réduire à la source la production d'emballages plastiques. C'est d'ailleurs l'objectif fixé par la loi. Réduire de moitié la production de bouteilles en plastique d'ici 2030. Pour ça, il faut offrir des alternatives au plastique aux consommateurs. La consigne pour réemploi en est une, et plus de 90% des Français, selon les sondages, y sont favorables. La demande est là, il faut la développer. On l'a dit, la consigne pour recyclage ne répond qu'à un objectif, l'augmentation des taux de collecte afin d'accroître la part de bouteilles plastiques recyclées. La concertation porte sur les modalités possibles d'un tel système et plusieurs questions se posent à ce stade. Comment l'objectif de 90% de bouteilles recyclées d'ici 2029 peut-il cohabiter avec celui de diviser par deux le nombre de bouteilles plastiques mises sur le marché d'ici 2030 ? Le choix qui va être fait sur la consigne devra tenir compte de ces deux données, sans quoi on s'orienterait vers une production infinie de plastique vierge pour permettre la fabrication de plastique recyclé, ce qui, vous en conviendrez, s'appelle marcher sur la tête. Une bouteille en plastique, même consignée pour recyclage, reste un produit à usage unique. Or, c'est à l'usage unique qu'il faut mettre fin. La priorité doit pour cela aller à l'émergence d'alternatives afin de réduire la production de plastique. Le gouvernement français l'a redit lors des négociations à Paris pour un traité mondial sur le plastique, c'est ce qui doit guider le choix sur la consigne. La question clé est donc, sur quel objectif se concentre-t-on prioritairement ? Accroître la collecte de plastique recyclable ou réduire la production de plastique ? La réponse devrait être évidente, il faut agir pour sortir du tout plastique et de l'usage unique en particulier, même s'il est recyclable. Donc mettre son énergie à généraliser les solutions alternatives au plastique qui existent et ne demandent que la force de la politique publique pour se développer. Voilà, un article qui faisait, à mon sens, bien le tour sur la question d'un sujet qu'on avait déjà évoqué. Et puis, pour terminer l'émission, je voulais revenir sur une motion du congrès de la Fédération anarchiste réunie le 27, 28, 29 mai 2023 à Cologne, intitulée « Ni capitalisme vert, ni nucléaire ». Et qui dit que, notamment, qu'à cause de l'industrie, l'agro-industrie et des pesticides, la faune sauvage disparaît de façon plus ou moins importante, parfois même irrémédiablement. Les sols s'appauvrissent, la pollution s'accentue, l'accès à l'eau se raréfie et la guerre autour d'elle se rapproche, comme à Sainte-Soline. Les ressources minérales sont surexploitées, le vivant est compris trop souvent comme ressource qu'il faut s'accaparer. Les États organisent et accompagnent cette situation, législation adaptée, financement dédié, répression des oppositions, accroissement volontaire des peurs pour s'afficher comme le sauveur unique. Tout ceci assure l'expansion du capitalisme en développant sa variante verte. Les États jouent sur les chiffres, déforment la réalité, modifient le vocabulaire en fabriquant une nouvelle langue. Ainsi, comme l'alchimiste change le plomb en or, le nucléaire devient une énergie verte, bas carbone et neutre. Alors que c'est une énergie centralisée, reposant sur l'extractivisme mené notamment dans nos ex-colonies, polluant et gaspillant l'eau, engendrant des déchets pour des millénaires et imposant une société sécuritaire et militariste. Devant ce constat, la Fédération anarchiste réaffirme en son 81e congrès à Köln la nécessité de lutter contre le capitalisme, qu'il soit vert ou non, et pour une décroissance libertaire, entendue comme le ralentissement du cycle production-consommation, une désescalade donc, selon les capacités de la planète et sous réserve que les besoins essentiels des populations soient satisfaits dans quelque partie du monde que ce soit. En effet, les anarchistes postulent que le simple fait de naître donne le droit de vivre de manière égalitaire avec un même accès aux richesses. La Fédération anarchiste insiste sur la nécessité de lutter pour un autre rapport au vivant et à l'environnement inséré dans une nécessaire révolution sociale et libertaire. Voilà, on peut que souscrire à ce communiqué. En tout cas, pour ma part, je le fais. Nous arrivons en fin de l'émission. On va se quitter justement avec une chanson sur le temps du plastique. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Et pour notre part, si mes calculs sont bons, on se retrouvera à l'antenne pour une prochaine émission le premier lundi du mois de juillet. Donc c'est normalement le lundi 3 juillet, si mes calculs sont bons, à 18h. Restez à l'écoute de Radio Libertaire, la plus rebelle des radios. À bientôt.
Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zic, zic, on y perdrait son temps. De temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économique, mique, et bien plus intéressant que les diamants que l'on prend au bout des gens. Car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire et à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pick-up, et hop, on y gagnerait son temps et son argent tout en y perdant niette, à part le chouette. Mais le chouette du peuple arrivera ton pick-up, et hop, sans avoir à causer à ces pépés qui font pis, qui font pis, qui font pitié. Car le temps des pin-ups passera, et pi-up, 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 c'est pin-up que l'on pique, et hop, sur les murs des maisons, des cons, des cons. Si l'on mettait des fanfares à la gare, 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 on perdrait pas son temps de temps en temps, et l'on y gagnerait quoi, se faire bien la joie, car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire, 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 et que les salons de l'inconnu, cossu, où l'on suit les potins et le popotin, car le temps des fanfares, ça s'en va d'art, 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 on y voit des aquins, caté, mi-coin, crevé, comme, crevé, comme, comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des pin-ups à la gare, et les fanfares, en plastique et pillage, on serait peinard. Il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.